Mais si vous êtes prêts, on va y aller. Ben avant, peut-être un petit rappel. Le texte fait 448 articles. Et c'est pas tout. Il y a des annexes, des protocoles, des déclarations des États. Dans une présentation qui est celle-ci, ben voilà le document complet. Et malheureusement, pour faire une interprétation correcte de ce que veulent dire les 448 articles, il faut se taper les annexes, les protocoles, les déclarations des États. Parce que ce sont justement des documents qui servent à interpréter. Ils n'ont pas toujours été d'accord de l'interpréter de la même manière, mais parfois ils ont été d'accord d'accepter l'interprétation d'un pays. Par exemple, imaginons la France dit « j'interprète l'article 48 de telle manière ». Si les 24 autres pays étaient d'accord, on en a fait une déclaration. Mais donc, si vous voulez comprendre le sens de l'article 48, il faut lire l'interprétation qui a été donnée. Et il y a aussi des interprétations sur lesquelles ils se sont mis tous d'accord. Je vais d'ailleurs vous donner un exemple qui va un petit peu vous surprendre, vous en conviendrez, mais qui est très exemplatif. Article 62 du traité, toute personne a droit à la vie. Déclaration à annexer à l'acte final de la conférence intergouvernementale, déclaration numéro 12. La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où il s'agit d'effectuer une arrestation régulière ou réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. Donc si on perd la vie en s'enfouillant à l'occasion d'une arrestation, peut-être parce qu'on a bu un verre, ou si on perd la vie à l'occasion d'une manif, alors là, on ne peut pas invoquer l'article 62, toute personne a droit à la vie. Vous voyez que les interprétations peuvent nous mener sur des terrains assez étonnants et assez surprenants. J'aurai l'occasion de vous montrer l'article 447, l'avant-dernier, qui n'est pas de la moindre importance, et je vous montrerai aussi le texte qu'il interprète, qui dit pratiquement le contraire. Alors, rapidement, le plan. Eh bien, il y a quatre parties dans le traité. Une première partie qui contient tout ce que vous avez sous les yeux, que je ne vais pas lire pour gagner un petit peu de temps. Je vous dirai simplement que, en dépit du fait qu'il y a des définitions, on va trouver, et j'aurai l'occasion de vous le montrer, parce que ça concerne des sujets importants, des concepts qui ne sont pas définis. Peut-être rappeler quelles sont les institutions. Le Conseil européen, ça, ce sont les chefs d'État et de gouvernement. Le Conseil, ça, c'est le Conseil des ministres. Conseil des ministres de l'agriculture, de l'économie, des finances, de l'industrie, du commerce, etc. etc. Le Parlement européen, la Commission européenne, la Cour de justice des communautés européennes, la Banque centrale européenne. Et on décrit les compétences de chacune de ces institutions, aussi comment elles fonctionnent, comment l'Union est financée, quelles sont les relations de l'Union européenne avec ses pays limitrophes, et puis comment on entre ou on sort de l'Union. C'est une nouveauté, je vous le signale. Avant, il n'était pas prévu qu'on sorte. Maintenant, c'est possible. La deuxième partie, c'est la Charte des droits fondamentaux, dont on nous dit que c'est un progrès considérable qu'elle ait été intégrée dans ce texte. Nous aurons l'occasion d'y revenir. La troisième partie porte le nom que vous avez sous les yeux, et ce sont en fait les cinq traités existants. Alors, pour mémoire, les cinq traités existants, c'est le traité de Rome, le traité fondateur, modifié et complété par l'acte unique européen, modifié et complété par le traité de Maastricht, modifié et complété par le traité d'Amsterdam, modifié et complété par le traité de Nice. Alors aujourd'hui, on dit plus volontiers le traité de Nice quand il reprend la totalité des cinq traités. Alors là, si vous me le permettez, j'ai un œuf à peler avec Giscard d'Estaing. Parce que lui nous dit, et il n'est pas le seul, c'est pas la peine de discuter de la troisième partie, ce sont les traités existants. Alors là, moi j'ai un problème. Et il ajoute, on n'y a pas touché. J'ai un problème parce que, est-ce que c'est parce que ce sont les textes existants qu'on ne devrait pas en parler? Est-ce que ça voudrait dire que ce sont des œuvres parfaites? Moi, je ne connais pas d'œuvre humaine qui soit parfaite. Est-ce qu'on ne devrait pas en profiter pour tirer les leçons de l'expérience? Il y a des choses qui ont bien fonctionné, et à l'évidence, il y en a d'autres qui n'ont pas bien fonctionné. Ce n'était pas l'occasion, dans l'esprit de la déclaration de Laeken, de tirer les leçons, et donc de modifier en conséquence. Et puis, ben, on a modifié les textes. Je vais le dire avec beaucoup de politesse, puisque M. Giscard d'Estaing est devenu un immortel. Il a dit la chose qui n'est pas. On a modifié les textes, et je ne sais pas si j'aurai le temps, mais on les a modifiés, notamment d'une manière qui les aggrave. Quand on nous dit « le traité qu'on vous propose n'apporte que de bonnes choses, ne fait qu'améliorer les traités existants », je pourrais au moins vous montrer deux articles, le 314 et le 315, où il l'aggrave. Et c'est par rapport aux effets de la mondialisation néolibérale. Mais enfin, bon, M. Giscard d'Estaing semble avoir fait école, puisque vous savez qu'un professeur de droit public, M. Olivier Duhamel, pour ne pas le citer, que ceux qui ont le courage de brancher France Culture le matin entendent tous les jours, a trouvé le moyen de publier dans un format à peu près comme celui-ci une publication qu'il a appelée Constitution, dans laquelle ne se trouvent pas 325 des 448 articles. Faut-il qu'on ait des choses à nous cacher ?